c'est en pleine nuit, à deux doigts de se donner la mort, qu'un gardien de prison épouvanté se jeta à genoux devant deux de ses prisonniers en leur demandant « Mes seigneurs, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas, car c'était eux, lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Cet épisode que je viens de vous lire se trouve dans le livre des Actes au chapitre 16, versets 30 et 31. Que faut-il faire pour être sauvé? Croire, avoir la foi. Non pas la foi en n'importe quoi ou n'importe qui, mais la foi en Jésus-Christ, de qui l'apôtre Pierre a dit « Sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. » Si donc nous parlons de la nécessité de croire pour être sauvés, qu'il soit entendu une fois pour toutes que c'est la foi au seul sauveur du monde qu'il s'agit. Laissez-moi ajouter que, contrairement à ce qui est couramment avancé, la foi en tant que telle ne sauve pas et n'a jamais sauvé personne. Ce n'est pas la foi qui sauve. Ce qui sauve, c'est le sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ est le seul sauveur, la foi est le seul moyen, la seule porte d'accès au salut qui, lui, est en Jésus-Christ. Vous pouvez donc avoir la foi la plus grande du monde et être perdu si ce n'est pas en Jésus seul que vous croyez. Et d'autre part, le Christ Sauveur vous sera inaccessible si vous n'avez pas la foi. Quelqu'un demandera peut-être, pourquoi Dieu exige-t-il la foi pour être sauvé? Certains diront même, Dieu ne nous demande-t-il pas quelque chose de trop difficile? Ne nous demande-t-il pas l'impossible en demandant la foi? En nous demandant de nous mouvoir dans un domaine qui échappe au sens, ne nous met-il pas dans la position de cette pauvresse dont parle le poète Edmond Rostand, qui par une froide journée d'hiver essayait d'emporter dans sa brouette un rayon de soleil pour réchauffer sa maison sans feu? N'est-ce pas cet inaccessible qu'il nous demande? Si cette déduction était juste, il n'y a plus qu'un pas à faire pour trouver de la dureté en Dieu. Mais ce n'est pas dans sa dureté que Dieu a fixé la foi comme moyen d'accéder au salut. Il faut toutefois reconnaître au Créateur et Maître de l'univers le droit de choisir, car à cause de nos péchés contre lui, nous sommes ses débiteurs. Et nous devons le rencontrer sur la base de ses propositions. Dieu n'a d'ordre à recevoir de personne. Un créancier de ce monde, en fixant le taux d'intérêt et le mode de paiement, pensera avant tout à ses avantages. Mais Dieu, dans son choix, n'a pas été guidé par son intérêt. Il a été guidé par son amour. Et en demandant la foi, nous pouvons être sûrs que c'était ce qu'il pouvait y avoir de mieux pour nous amener au salut. Je réaffirme avec force que les raisons qui l'ont poussé à demander la foi ont été dictées par son amour. Voyons quelques-unes de ces raisons de son choix de la foi pour être sauvé. Premièrement, la première raison, c'est pour qu'il y ait correspondance et affinité entre lui et nous. Je m'explique. Déjà à l'école primaire, on nous apprend qu'on ne peut additionner, donc mettre ensemble, que des unités d'un même ordre. Un ordinateur plus un cheval, ça ne s'additionne pas. Ça ne fera jamais qu'un cheval plus un ordinateur. Vous ne pouvez pas faire entrer un cheval dans un PC, ni un PC dans un cheval. Autre exemple. L'électricité s'exprime ou s'explique en ohm, ampère, volt, etc. Il ne viendrait à personne l'idée de parler d'électricité en termes d'hectares ou d'hectolitres ou en javelot ou en autres termes d'athlétisme. Cela vaut aussi pour nos relations avec Dieu. certaines choses ne s'expriment qu'avec des mots appropriés. Un homme demanda un jour, « Monsieur le pasteur, prouvez-moi mathématiquement l'existence de Dieu. » Il s'entendit répondre, « Monsieur, prouvez-moi théologiquement l'existence de l'électricité. » Il faut traiter avec Dieu sur la base de ce qui lui correspond et nous correspond. Si Dieu était uniquement mathématicien, pour être sauvé, il faudrait présenter un diplôme de maths sup, tant pis pour ceux qui ne sont forts qu'en orthographe. Si Dieu était l'Apollon des Grecs, il exigerait un premier prix de conservatoire pour être sauvé. Je n'aurais aucune chance, et ne sachant que choisir entre la flûte de Pan et sa lyre, comme au roi Midas de la mythologie, il aurait au fait de me faire pousser des oreilles d'âne. Si Dieu était l'Hercule aux 12 travaux, seuls ceux dotés de solides biceps seraient sauvés. Mais nous n'avons pas à nous exprimer en termes de force, de musique ou de mathématiques. Dieu, est-il écrit, est esprit, et il nous a donné un esprit. Il nous demandera donc ce qui nous est commun à lui et à nous. Ce sera sur une base spirituelle. Et parce qu'il est écrit, Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, et qu'il est encore écrit, qu'en lui il n'y a pas l'ombre d'une variation, parce qu'il est entièrement digne de confiance, nous ne pourrons traiter avec lui, et lui avec nous, qu'en termes de confiance. Et qui dit confiance, dit foi. Ainsi, le caractère spirituel de la foi correspond au caractère de Dieu, comme l'art et la musique à Apollon, la force à Hercule et l'ampère à l'électricité. Mais il y a plus encore. Si la foi, dans son sens sacré, est une denrée assez rare, dans son sens profane ou séculier, elle est au contraire très courante, et nous l'employons de nombreuses fois par jour. La foi est un monde où nous nous mouvons quotidiennement. Le mot « fiançailles » n'a-t-il pas la foi pour racine ? C'est par la foi mutuelle que les époux s'engagent pour la vie. C'est sur la foi d'une recommandation que nous prenons un engagement. C'est par la foi que nous abandonnons une lettre dans une boîte postale et que nous croyons qu'elle arrivera à destination. C'est par la foi encore que nous travaillons une semaine ou tout un mois avant d'être payés. C'est par la foi que nous croyons aux promesses électorales. Or, nous dit la Bible dans l'épître de Jean au chapitre 5 et verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, si nous croyons les hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Si donc les valeurs profanes sont parfois dignes de foi, combien plus les valeurs divines ne devraient-elles pas l'être? Et si la vie sur la terre serait impossible sans un minimum de confiance, c'est-à-dire de foi, combien plus la vie éternelle est-elle impossible sans la foi? Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est pour que personne ne s'attribue la gloire du salut. Dieu dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si c'était par nos œuvres et nos efforts que nous serions sauvés, nous ne saurions d'abord jamais quand nous en aurions fait assez, et le salut resterait une perpétuelle incertitude. Et une fois sauvés, si tant est que cela soit possible, nous pourrions nous en décerner tous les mérites et les honneurs, et une fois arrivés au ciel, nous mettre à chanter « Gloire à ma bonté, gloire à ma générosité, gloire à ma persévérance, enfin gloire à moi-même tout court ». Un salut acquis et chanté sur la base de nos mérites sèmerait la confusion parmi les musiciens du ciel, qui n'ont jamais appris d'autre chant que celui qui est rappelé dans Apocalypse 5, verset 8, et aussi au verset 14, où l'agneau de Dieu est le thème central, et dont voici le résumé, et voici ce qu'ils disent et ce qu'ils chantent, « Tu es digne, car tu as été immolé, et tu as racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple, nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour Dieu. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire, et la bénédiction au siècle des siècles. Amen. » Un salut basé sur nos mérites jurerait avec tout ce qui se fait et se dit dans le ciel. L'apôtre Paul n'aurait plus qu'à se voiler la face et faire son mea culpa. Lui qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 4, verset 5, « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en Jésus-Christ, sa foi est comptée à justice. » Paul, appelé à juste titre, le docteur de l'Église aurait alors de terribles comptes à rendre pour avoir induit le monde en erreur, si une pensée aussi extravagante peut être envisagée, bien sûr. Mais il y a aujourd'hui un certain courant théologique qui dit qu'on peut être sauvé par les œuvres parce que, voyez la subtilité, parce que ce serait déjà une grâce que de faire une œuvre. Ce raisonnement subtil, qui n'est qu'une mauvaise dialectique, est heureusement battu en brèche par l'apôtre Paul lui-même, qui, dans le même texte que je viens de lire, a pris la précaution de dire « Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû ». Il est encore plus précis quant au chapitre 11 de la même épître, il dit au verset 6, « Si c'est par la grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce. » Sur le plan du salut, les deux choses, œuvre et foi, s'opposent et se court-circuitent comme lorsqu'on fait se toucher deux fils électriques. Ça crache feu et ça fait sauter le commutateur central. Le salut est une pure grâce à laquelle la foi seule donne accès, et cela afin que personne ne s'en attribue la gloire qui revient à Dieu seul. Mais Dieu a vu venir le jour où certains hommes qui tournent la grâce de Dieu en licence allaient dire « Moi j'ai la foi, et puisque c'est la foi qui sauve, je suis sauvé envers et contre tout, quel que soit mon genre de vie. » « Je suis sauvé. » Dieu avait prévu cette aberration. Aussi a-t-il guidé la pensée de Jacques pour nous dire, au chapitre 2, verset 20 de son épître, « La foi sans les œuvres est morte. » Dieu veut que la foi invisible s'inscrive en œuvre visible sur la terre. C'est d'ailleurs ce que Dieu lui-même a fait. Sa pensée créatrice invisible s'est inscrite dans l'univers visible. C'est ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil dans les choses qu'il a créées. Lui-même, le Dieu invisible, s'est rendu visible dans son incarnation, au point que l'apôtre Jean a pu écrire, chapitre 1 et verset 1 de son Épître, « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. » Son amour invisible s'est inscrit de façon visible dans le don de son Fils unique, avec pour point culminant le drame sanglant de la croix. Ce qui revient à dire que seule la foi en Jésus-Christ sauve, et que cette foi-là, Dieu seul la voit, parce que lui seul lit dans les cœurs. Mais Dieu veut que ceux qui nous regardent et nous entourent en voient un aperçu en faisant dire à Jacques, « Montre-moi ta foi par tes œuvres. » Je vais donc vous rappeler les quatre moyens d'inscrire notre foi de façon visible, d'où le titre de notre rencontre, les quatre compagnons de la foi qui, je le précise, seront vus en relation directe avec le salut. Alors nous arrivons au premier compagnon. Le premier compagnon de la foi est ce que l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 8 et 9, appelle la confession des lèvres, ou si l'on préfère, publier de la bouche, ou encore le dire avec la langue. Voici ce que dit le texte. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, c'est la parole de la foi. Si de ta bouche tu reconnais Jésus comme sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit pour la justice, et de la bouche on fait la déclaration pour le salut. L'affirmation publique par le moyen de la parole est un corollaire indispensable de la foi qu'on a dans le cœur. Ce n'est là qu'un prolongement de ce que disait déjà le psalmiste dans l'Ancien Testament, psaume 116. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et l'apôtre Paul, s'appuyant sur ce texte, conclut par ses paroles dans 2 Corinthiens 4, « Nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. » Quand, tout au début de l'Église, commencèrent les premières persécutions, les apôtres Pierre et Jean furent enjoints avec menace de se taire et de ne plus enseigner au nom de Jésus. Ils répondirent bravement, « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » La foi qui communique avec Dieu et parle avec lui dans le secret de l'âme, pour être vraie, elle doit se traduire par le langage des lèvres. Car, et c'est Jésus lui-même qui le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si donc vous avez donné votre cœur au Seigneur, tout le monde autour de vous doit le savoir, par une vie changée, bien sûr, mais aussi par le témoignage verbal, afin que ceux qui vous connaissent sachent comment vous êtes arrivés au salut, et surtout comment ils peuvent y parvenir eux-mêmes. Depuis plusieurs années, je m'adresse aux foules par la prédication, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Bien avant d'entrer dans le ministère et dès ma conversion, tous les étudiants de ma classe et mes professeurs ont été mis au courant. Et quand je suis entré dans la vie active, tout le monde a su de quel bois je me chauffais. Ainsi, mes voisins, mes amis, mes connaissances, mon médecin, mon assureur, même le gérant du cinéma où j'entrais sans payer, il savait la nouvelle direction qu'avait pris ma vie. Et lui, surtout, quand j'ai été lui restituer la somme que moi, le resquilleur, je lui devais. Donc, premièrement, premier compagnon, la confession des lèvres. Le deuxième compagnon, eh bien, c'est le baptême. On lit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 16, c'est facile à retenir, 16-16, « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Ce sont là les paroles mêmes du Seigneur. Le baptême est le deuxième compagnon visible de la foi. Lorsque quelqu'un se repent de ses péchés, met sa foi en Jésus-Christ, Dieu entre en action dans sa vie par le Saint-Esprit. Dieu opère en lui le baptême intérieur du Saint-Esprit. C'est là un acte invisible qui met le nouveau converti dans l'Église invisible, qui est appelée le corps de Christ, selon ce qu'en dit 1 Corinthiens 12, 13. C'est le seul texte de la Bible qui nous explique, j'ai bien dit explique, ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Et je vous lis, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour... Pourquoi ? Pour être ou pour former un seul corps, soit juif, soit grec, esclave ou libre. Ou selon une variante, c'est pour être un seul corps que, juifs et grecs, esclaves ou libres, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. ce qui s'est passé intérieurement doit s'inscrire extérieurement par un autre baptême que le Seigneur lui-même a institué et qui s'appelle le baptême d'eau par immersion. Ce baptême d'eau est le pendant visible du baptême invisible du Saint-Esprit. Le premier conduit à l'autre, et non l'inverse. On n'est pas baptisé d'eau pour recevoir le Saint-Esprit, mais quand on a reçu le Saint-Esprit. Le mot baptême veut dire plonger ou immerger. Pour baptiser, il faut beaucoup d'eau, selon ce qu'en dit la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 3, 23. Je lis, Jésus baptisé, et Jean-Baptiste aussi baptisé à Énon, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Forcément, quelques gouttes d'eau ne peuvent suffire là où il est question de plonger ou immerger. Cette nécessité d'avoir beaucoup d'eau à disposition ne peut concerner que des adultes. Pierre donne en plus une lumineuse explication dans sa première épître, au chapitre 3, verset 21. Écoutez cela. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, du péché originel, dirons-nous, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Il faut que je le redise. Mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est cela le sens du baptême. C'est un engagement consciencieux. Il faut croire d'abord et être baptisé ensuite. C'est la question que l'apôtre Paul a posée aux 12 juifs qu'il a rencontrés à Éphèse, acte 19. Il leur a demandé s'ils avaient reçu le Saint-Esprit après, je souligne, après avoir cru. Et n'ayant reçu qu'une réponse floue, il leur a demandé « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et ils ont répondu « Du baptême de Jean-Baptiste. » Paul a immédiatement saisi quel était leur statut. Ces gens étaient non pas des disciples de Jésus, mais des Juifs disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient été baptisés du baptême de repentance qui était pour le peuple juif. Et bien que ce baptême-là ne fût pas faux en soi, Paul, du haut de son autorité apostolique, les a, et ici je pèse mes mots, il les a rebaptisés au nom du Seigneur Jésus. À mon tour maintenant de vous poser la même question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Si c'est celui qui ne vous a pas été administré après que vous ayez cru, il faut remettre de l'ordre dans votre théologie, comme l'ont fait les 12 disciples d'Éphèse. Après avoir cru non plus seulement au message de Jean-Baptiste, mais en Jésus, ils ont été rebaptisés adultes, conscients et responsables au nom de Jésus-Christ. Que chacun, selon son cheminement spirituel, et le point qu'il a atteint se pose deux questions. La première, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et l'autre est celle qui fut adressée à Saul de Tarse après sa conversion. Pourquoi tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Ainsi, on ne prend pas le baptême pour être sauvé, pour entrer dans l'Église, mais on se fait baptiser quand on est déjà sauvé et déjà baptisé du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit, de nature intérieure, nous met dans l'Église invisible. Le baptême d'eau, lui, nous introduit officiellement dans l'Église visible. C'est ce que certains appellent la carte d'identité du chrétien. Avez-vous donc été baptisé après avoir cru? Avez-vous donné à votre foi l'expression que Dieu et les hommes attendent de vous? La confession des lèvres, hein? Le baptême par immersion, le baptême d'eau, deux. Troisièmement, la sanctification. La sanctification, qui veut dire « mise à part pour Dieu », est un des plus importants compagnons de la foi, car on lit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et Hébreux 12, verset 14 ajoute, « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, liant ainsi la sanctification au salut. » Que personne ne s'abuse sur la solennité de cette déclaration. La progression dans une vie de séparation d'avec le mal est une preuve de plus que quelqu'un peut donner à l'authenticité de sa foi. Ne mélangeons toutefois pas les serviettes et les torchons. Le salut n'est pas l'aboutissement d'efforts en vue d'atteindre un certain niveau de sainteté, qui d'ailleurs pourrait en fixer le niveau. Si c'était, par exemple, « Soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur » dans la première épître de Pierre, eh bien nous passerions tous sous la barre. Non, la sanctification en tant que position ou statut, si vous préférez, nous est acquise totalement par la simple foi en Jésus-Christ. 20 ou 30 années de vie chrétienne n'ajouteront rien à cette sainteté-là, puisque c'est l'excellence de la vie parfaite de Jésus qui est mise en compte à celui qui croit. Le jour où une jeune recrue entre au service militaire, il est soldat. Il l'est entièrement. Et 20 ou 30 années de service ne le feront pas plus soldat qu'au premier jour. Mais il peut monter en grade et avoir quelques sardines sur la manche ou des étoiles au képi. S'il reste simple plouc, son statut de soldat n'est pas mis en cause. Mais est-ce digne d'un militaire de carrière de rester deuxième classe toute sa vie? Est-ce digne d'un chrétien de n'avoir qu'une sainteté de parade? Que des médailles en toc achetées au bazar du coin? Quelqu'un me dira peut-être, « Réjouissez-vous avec moi, Dieu m'a sauvé, Dieu a sauvé mon âme !» Eh bien, alléluia, mon frère, car il faut que je te salue comme tel si tu es sauvé. Mais permets-moi de te poser quelques questions. Tu es sauvé?
Oui.
Et qu'est-ce que Dieu a sauvé? Mon âme, bien sûr. Et qu'est-ce que ton âme?
Silence.
Eh bien, je vais te le dire. Mon âme, c'est mon moi profond. C'est ce que je suis. C'est ce qui me distingue. Ce n'est pas ma calvitie que Dieu sauve quand il me sauve, ni mes rhumatismes, ni ma vue qui baisse, ni les années qui s'empilent. Oh, ça viendra bien sûr un jour. Non, ce qu'il sauve, c'est mon être intérieur, c'est l'homme que je suis, ce qui me caractérise, c'est mon caractère. On s'aperçoit vite que dans certains cas, il n'y a rien de sauvé, rien de changé que quelques formes extérieures ou formules pieuses dignes de Tartuffe. Non, ce n'est pas que les formes que Dieu sauve et change, mais des âmes, des caractères distinctifs. N'est-il pas écrit que celui qui est en Christ est devenu une, mais une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses, jusqu'au vocabulaire, toutes choses sont devenues nouvelles. Que faut-il penser de cette femme apparemment pieuse, mais d'un caractère si difficile et insupportable que son mari, s'ouvrant un jour à un ami, a dit avec cette tournure de phrase particulière, « Il faut que ce soit moi pour continuer à vivre avec elle. » Et cette autre « chrétienne », entre guillemets, qui, entrée à l'hôpital, est devenue l'épouvantail des infirmières qui en avaient plein le dos de ces continuelles récriminations. À ceux qui prétendent avoir la foi qui sauve et dont le caractère est resté ce qu'il était autrefois, à savoir colérique, emporté, tyrannique, vaniteux, envieux, soupçonneux, causeur, boudeur, avare, à ceux qui ont un fichu caractère, ces gens impossibles à vivre, qui font souffrir leur entourage, ces gens, dit l'épître de Jude, qui murmurent et se plaignent de leur sort, je veux leur dire que le seul évangile que je connaisse, c'est celui de la foi suivie de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous arrivons maintenant à l'autre compagnon que nous allons appeler la persévérance, qui nous est rapportée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6 et verset 12. Voilà en quels termes on lit les choses. Ce sont ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Je ne m'étendrai pas sur ce quatrième point, bien que la persévérance, ailleurs appelée patience selon le contexte, soit citée au moins 45 fois dans la Bible. La persévérance, inscrite sur l'argile passagère de nos jours, et de façon visible, la permanence des choses éternelles. C'est en celui qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement que nous avons cru. C'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Et cette vie éternelle n'est pas là pour 10 ans, ou 10 siècles, ou 10 000 siècles, mais pour l'éternité. La permanence de la vie éternelle que Dieu a mise en nous ne s'accommode pas de feux de paille ou de coups de foudre sans lendemain. L'amour de Jésus pour nous, et notre amour pour lui, n'est pas une toccade passagère. Comme on dit dans le bâtiment, c'est fait pour durer. Et la persévérance est le ciment qui lui donne sa solidité et sa longévité. C'est ainsi que dans le même chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux que je viens d'évoquer, au verset 15, il est dit d'Abraham, souvenez-vous, qui est aussi appelé le père des croyants, qui croient, qui ont la foi, Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Par la foi, il avait la promesse. Par la persévérance, il a eu l'effet de la promesse. Il a obtenu ce qui lui avait été promis. Si donc ces quatre choses dont nous venons de parler n'accompagnent pas la foi, il faut sérieusement repenser cette foi que l'on prétend avoir. Mais c'est finalement la foi qui reste la pièce maîtresse et l'élément décisif du salut. Après avoir dit en Marc 16:16, vous vous rappelez, 16:16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », Jésus a pris soin d'ajouter, « mais celui qui ne croira pas sera condamné », avec la vérité sous-tendue, fut-il baptisé. Jésus montre par là qu'en dernier ressort, ceux qui sont vous condamnent. Ce n'est pas le baptême ou l'absence de baptême. Ce n'est pas la confession des lèvres ou l'absence de confession. Ce n'est pas la sanctification ou l'absence de sanctification. Ce n'est pas la persévérance ou l'absence de persévérance. Non, ceux qui sauvent ou qui condamnent, c'est la foi ou l'absence de foi. Celui qui ne croit pas sera condamné, fut-il baptisé. Et aurait-il à son actif ce compagnon-là et même les 3 autres? Après avoir vu les 4 compagnons de la foi, nous allons reprendre les 2 premières raisons pour lesquelles Dieu a choisi de nous sauver par le moyen de la foi seule. La première raison, je récapitule très brièvement, était à cause de l'affinité, la correspondance qu'il y a entre nous et celui en qui l'apôtre Paul dit dans le livre des Actes 17:28, « Nous sommes de la race de Dieu, d'un Dieu entièrement digne de confiance, donc de foi. » La deuxième raison était afin que personne ne se glorifie de ses œuvres. Et nous arrivons maintenant à une troisième raison. Si Dieu veut la foi seule comme pierre de touche du salut, c'est, je parle lentement, c'est pour rester seul juge des choses, des hommes et des situations. Et vous allez comprendre pourquoi. Ces 4 compagnons visibles de la foi invisible, on peut les imiter. Prenons la confession des lèvres. Il ne faut pas être chrétien pour affirmer haut et clair qu'on l'est. et que l'on croit à l'existence de Dieu et de Jésus. En acte 16, une diseuse de bonne aventure, animée par un esprit de python, donc par le diable, tenait publiquement des propos surprenants à propos des deux apôtres du Christ, Paul et Silas, qu'elle n'avait jamais rencontrés. Elle crie à qui voulait l'entendre, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Qui dit mieux ? Des prostituées portent des croix chrétiennes. Des buveurs, des projecteurs de films porno, des financiers véreux font des signes de croix. On est surpris parfois de voir sur quelles lèvres impies traîne le beau nom du Seigneur Jésus. On peut imiter la confession des lèvres. La même chose peut être dite du baptême, même de celui des adultes dont nous avons débattu. Plus d'un, hélas, est descendu dans les eaux du baptême sans avoir jamais compris que c'était là le symbole de la mort au péché en disparaissant sous l'eau, et que c'était l'engagement d'une résurrection à une nouvelle vie en sortant de l'eau. La cérémonie n'a été qu'un plongeon sans réalité intérieure correspondante. Comme il ne s'était rien passé dans leur cœur avant, il ne s'est rien passé dans leur vie après leur baptême. Tout est resté statu quo. Troisièmement, la sanctification, la même chose est vraie pour la sanctification, on peut s'arranger en dehors du dimanche, une petite vie assez propre à l'extérieur, juste assez pour ne pas faire jaser la rumeur publique, avoir ce que Jésus appelait la justice des pharisiens, sans qu'il y ait un atome de sainteté véritable à l'intérieur. Même chose avec la persévérance. Car routine et habitude font figure de persévérance. Le mimétisme, chacun le sait, peut être poussé très loin. Mais plus d'un a découvert qu'il était encore perdu après avoir persévéré pendant 10 ans ou 20 ans dans la compagnie des chrétiens et même à la table du Seigneur. Lors d'une de mes campagnes d'évangélisation dans le sud-ouest, un homme encore jeune m'a invité chez lui pour un repas. Il avait une charmante épouse, 2 beaux enfants, et était membre actif dans son église. Il rendait témoignage autour de lui, et il invitait des collègues de travail à venir assister aux conférences. Il avait été baptisé en tant qu'adulte, selon la norme biblique. Jeune garçon, il avait participé au camp de la Ligue pour la lecture de la Bible, et autour du feu de camp, il avait rendu témoignage de sa conversion comme le faisaient les autres. Mais, me prenant à part, il m'a dit que quelque chose n'allait pas dans sa vie chrétienne, sans pouvoir en expliquer la raison. Il était sans enthousiasme pour tout ce qui touchait à la vie de son assemblée. Il devait, disait-il, se cravacher pour aller au culte, et en chemin, il avait toujours envie de faire demi-tour. J'avoue avoir été bien emprunté pour lui fournir une réponse. Les 4 compagnons dont je viens de parler étaient bien en place, ou semblaient l'être. Je lui ai demandé un délai de réflexion jusqu'à la prochaine rencontre, car l'effort d'évangélisation s'étendait sur 10 jours. Et quelques jours après, cette occasion s'est représentée, mais il y avait d'autres invités à table, si bien que nous n'avons pas pu aborder le sujet. Le dernier soir, après la réunion, alors que tout le monde se séparait, on se disait adieu. Je lui ai dit mon regret de ne pas avoir pu m'entretenir avec lui de ce qu'il préoccupait. Il m'a alors répondu, « Monsieur Legrand, ce n'est plus nécessaire. Entre-temps, j'ai trouvé la réponse, mais je vous fais un reproche. C'est de ne pas m'avoir dit que je n'étais pas converti. Ah, quelle gifle j'ai reçue, si je m'imagine. » Il a alors tiré de sa poche 3 feuillets dactylographiés qu'il m'a tendu en disant « Ceci est mon témoignage. Dimanche prochain, je lirai au culte. » Et il l'a fait. Et je n'oublierai jamais la dernière phrase écrite. Chez cet homme, chez qui ça ne marchait pas, il a écrit ceci « C'est parti au quart de tour. » Plusieurs mois après, j'ai rencontré un des équipiers de cette campagne, d'évangélisation, qui avait eu l'occasion de le revoir, et il m'a dit simplement, « Tu sais, Maintenant, ça marche. En fait, cet homme avait copié les quatre compagnons de la foi, mais la foi qui sauve n'était pas au rendez-vous, d'où les échecs en cascade. Voyez-vous, il est une chance qu'il est inutile et impossible de vouloir reproduire par imitation. C'est la foi. Parce que la vraie foi, celui qui la juge, c'est aussi celui qui la donne, c'est Dieu. Mes amis, on peut flouer les hommes, pas Dieu. La meilleure copie n'est jamais qu'une copie. Elle ne sort pas de la banque du ciel, elle est sans valeur. Elle n'a pas cours dans le royaume de Dieu, elle n'est d'aucune efficacité pour la vie chrétienne. Regardez les Israélites au désert. J'aimerais que vous me suiviez de près. Ils construisirent le tabernacle selon les directives que Moïse avait reçues directement de Dieu. Les parois extérieures étaient faites d'épaisses planches dressées à la verticale. Elles étaient maintenues dans cette position par quatre barres horizontales bien visibles accrochées à des tenons. Mais à l'intérieur, dans l'épaisseur de ces planches d'enceinte, Dieu avait ordonné de pratiquer ce qu'on appelle une mortaise, c'est-à-dire un trou dans lequel on faisait passer une cinquième barre qui, elle, était invisible, puisqu'elle était à l'intérieur des planches. Vous avez saisi l'allusion. Les quatre barres extérieures et visibles, ce sont les quatre compagnons de la foi. La barre intérieure invisible, c'est la foi. Cette cinquième barre pouvait ne pas être enfilée dans les autres. Quelle importance! Quelle importance qu'elle y soit ou non, pourvu que les quatre autres y soient bien en vue. De toute façon, on ne la voyait pas, la cinquième. Mais c'est au démontage qu'on découvrait si la barre invisible était en place. Mes amis, un jour Dieu va démonter nos vies. Il va le faire pièce par pièce, au jour solennel où le grand livre, le cahier des charges, sera ouvert. Les quatre barres seront peut-être là avec un air, pour ne pas dire un ersatz de baptême, de confession d'élève, de sanctification et de persévérance. Quand Dieu regardera à l'intérieur, au lieu de la foi véritable sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, dit Hébreux 11, il n'y trouvera peut-être qu'un trou, vide de ce qui devait le remplir. Et puis, non seulement ces quatre compagnons, on peut les imiter, mais même là où ils sont authentiques et où ils accompagnent la vraie foi, on peut les supprimer. On peut faire taire la confession. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait subir à ceux qu'on brûlait sur les bûchers de l'Inquisition. Ils confessaient publiquement leur foi en Jésus-Christ, jusque sur les bûchers, et certains se convertissaient en les entendant parler ou chanter des cantiques. Pour ne pas les entendre, on couvrait leur voix par des cris, ou un roulement de tambour, ou en leur arrachant la langue. La confession des lèvres devenait alors impossible. La persécution, ou la maladie, ou des circonstances contraires peuvent empêcher la foi de se traduire par le baptême. Le brigand repentant, crucifié à côté du Seigneur, a cru en lui de toute son âme, mais il n'a pas pu être baptisé après avoir cru, ce qui n'a pas empêché Jésus de lui dire « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». La persévérance et la sanctification aussi peuvent être supprimées dans la vie d'un chrétien, que ses facultés mentales s'amenuisent, ou que la terrible maladie d'Alzheimer l'atteigne, et le jugement porté sur lui pourrait être faussé. Si par la persécution, par la maladie, ou quelque autre cause semblable, le bon témoignage est extirpé de force de la vie d'un homme, Dieu ne portera pas sur lui un jugement faussé, il regardera à l'intérieur de sa vie, et il y trouvera tout ce qu'il exige pour le sauver. Il trouvera ce que Satan et son armée de démons n'ont pas pu faire mourir, la foi que lui-même y a placée. C'est ce que nous crie la glorieuse finale du chapitre 8 de l'Épître aux Romains que je vous lis maintenant. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce la tribulation? La détresse? La persécution? La famine? Le dénuement? Le péril? L'épée? Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Permettez-moi de rappeler les trois premières raisons pour lesquelles Dieu a choisi de sauver les hommes par le moyen de la foi en son Fils Jésus-Christ. La première était pour une raison de correspondance à lui-même. La deuxième, pour que personne ne s'attribue la gloire du salut. La troisième, pour que Dieu reste le seul juge des choses. Voici maintenant la dernière. Pour une raison de protection. Notre salut, notre héritage céleste, notre trésor sont de la même nature que notre foi, ils sont spirituels. Voilà pourquoi ils ne sont accessibles qu'à la foi. Si notre héritage était de la terre et sur la terre, les hommes auraient au fait d'en prendre possession par des moyens douteux, comme les tentatives de délivrance du tombeau du Christ, par cette vaste hystérie collective et meurtrière qu'ont été les croisades. Si notre héritage était sur la terre, il serait bien vite annexé et pillé, comme l'ont été les États pontificaux et les biens terrestres de l'Église à la Révolution française, ou comme les trésors des pharaons. Des chambres mortuaires secrètes ne les ont pas mis à l'abri des pillards. Alors, nos trésors, notre héritage, Dieu a voulu qu'ils passent inaperçus aux yeux des profanes. Il les a rendus invisibles aux yeux de la chair. Écoutez, je lis. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car ce qui se voit est temporaire, mais ce qui ne se voit pas est éternel, nous dit 2 Corinthiens, chapitre 4. Pour qu'ils soient hors de portée des pillards, Dieu les a mis dans le ciel, selon ce qu'en dit Colossiens 3, verset 3, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour les mettre hors de portée des faussaires et des plagiaires, il ne les a rendus accessibles qu'à cette seule chose au monde qu'on ne peut pas imiter, la foi. Et pour que nous puissions quand même, déjà dans le présent, jouir de ces richesses, Dieu a opéré en celui qui croit le miracle de la nouvelle naissance, selon qu'il dit à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et par l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, à côté de la vieille nature que nous portons tous en nous et qui ne sait que copier, deviner, supposer, il a créé un homme nouveau qui lui n'est pas de cette terre, mais du ciel où est notre héritage. Et ce nouvel homme, créé en nous par le Saint-Esprit, possède une nouvelle faculté qui lui permet de voir et de saisir ces choses invisibles qui lui sont accessibles par cet inimitable nouveau sens qu'est la foi. Quelles sont ces richesses invisibles? Elles sont remarquablement définies dans un texte que je vous demande de ne jamais oublier, égal à Jean 3,16. C'est l'Épître aux Romains, chapitre 14 et verset 17. Épître aux Romains, chapitre 14, verset 17, que je vous demande de cercler de rouge le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire, ce ne sont pas des choses que l'on touche. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est paix, joie, justice, choses qui nous sont accessibles dès à présent par la foi que Dieu nous a donnée. Oh, la sagesse de Dieu, qui a choisi la foi comme seul moyen d'accéder au salut. Jamais le geôlier de la prison à qui cette parole a été adressée, ni vous ni moi, ni personne, n'avons imaginé les trésors d'amour et de sagesse cachés dans cette petite phrase « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mes amis, croyez et soyez sauvés. Puis donnez à votre foi les compagnons que Dieu veut qu'elle ait. La liste que j'ai donnée, les quatre compagnons, n'est pas exhaustive. L'apôtre Pierre reprend le même thème dans sa deuxième épître à partir du verset 5 de son premier chapitre, et je lis encore, « Faites tous vos efforts, tout votre empressement pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Mais de grâce, que personne ne mette la charrue devant les bœufs. Ne cherchez pas le salut par le baptême, par le témoignage, par la sanctification et la persévérance. Ce serait le début d'une vie d'échec et de frustration. Commencez par le commencement. Repentez-vous de vos péchés, appelez-les par leur nom, avouez-les au Seigneur et croyez. Oui, croyez en celui qui a pris sur lui le jugement de vos péchés et qui a dit « Celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie ». Mes amis, que Dieu vous bénisse.